Les milieux humides sont partout autour de nous. Pourtant, on les connaît encore très peu et on les perd, souvent sans même s'en rendre compte. Depuis plus de 50 ans, Canard Illimité Canada agit au Québec pour les conserver, les restaurer et mieux comprendre leur rôle essentiel. Mais derrière ces actions, il y a une histoire faite de projets, d'innovation, de collaboration et surtout de personnes engagées. Dans ce balado, on vous propose de remonter le fil de cette histoire. Je suis Fabien Cloutier et je vous invite à plonger dans l'histoire de Canard Illimité Canada au Québec avec moi. Aujourd'hui, on prend un pas de recul pour parler de ce qui fait battre le cœur de Canard Illimité Canada depuis le tout début. Avant les projets, il y avait des personnes qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leurs idées. On plonge dans ce pan de l'histoire de Canard Illimité Canada avec deux personnes qui ont été non seulement témoins, mais acteurs. Roger Deschambault, t'es impliqué chez Canard Illimité Canada depuis plus de 40 ans, d'abord comme bénévole pour la collecte de fonds, puis administrateur, et t'as été président du conseil d'administration de 2022 à 2026. Marie-Ève Bertrand, t'es gestionnaire du développement chez Canard Illimité Canada depuis 3 ans. Tu travailles à bâtir des ponts avec les bénévoles, les donateurs et les entreprises. Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Si.
Roger, d'abord, j'aimerais ça que tu nous expliques comment ton aventure au sein de Canard Illimité Canada, ça a commencé.
Je te dirais simplement, comme beaucoup de bénévoles, Canard Illimité, pour moi, représentait l'accès au plein air, l'accès à la nature, en premier. Mon début a été le fameux logo de Canard, qui est une tête de canard, et la chasse au canard avec mon père, dans un marais, perdu dans un coin du Manitoba. Par la suite, ça a été la découverte.
Un univers qui est arrivé à toi parce qu'il y avait quelque chose dans ça qui était dans tes gènes, qui était émotif, puis tu as voulu que ça se poursuive auprès d'une organisation.
Bien, je pense qu'on n'est jamais assez reconnaissant des gens avant nous. Dans ce cas-ci, mon père qui m'a démontré sa passion. C'est dans les gènes peut-être, parce qu'il était passionné lui aussi de la nature, mais c'est un moment, Fabien, si je peux le raconter, que j'ai raconté plusieurs fois à des gens, parce que je crois que c'est un élément déclencheur, où à 12 ans, c'est peut-être 12, 13, 14 ans, mon père et moi, on part, il fait noir le matin, soleil se lève, mon père rince sa tasse de café, dans le marais. Notre chien est là, le canot est là, il regarde sa tasse de café, je lui dis, qu'est-ce que tu fais, papa? Il dit, je regarde ma tasse de café, je lui dis, mais il est vide. Il avait mis de l'eau du marais. Il a dit, non, il n'est pas vide. Puis, à ce moment-là, mon père m'a montré sa tasse avec des petites écrevisses. Il y avait de l'action, il y avait du mouvement. Il y avait de la vie dans sa petite tasse de café. Puis, c'est à ce moment-là, quand il m'a dit, Roger, c'est vivant ce qu'on a devant nous. Je peux te dire que... Parce que ça fait longtemps, c'est peut-être pas exactement l'histoire. Je l'embellis peut-être. Mais ultimement, c'était cette action, ce geste-là de me démontrer la valeur, la vie dans un marais, dans ce que les gens pensent des fois est inerte. Une swamp, c'était pas vrai.
Mais là, Roger, tu me parles de cette tasse pleine de vie au Manitoba, et là, aujourd'hui, on se parle au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
3 enfants, 3 petits... Non, je peux dire que le cheminement d'un bénévole comme moi est classique. L'amour qui commence par la pertinence de la nature de la chasse, mon père qui me l'expose, et ensuite, vie professionnelle qui m'a amené à un transfert début de mes vingtaines vers Montréal, après mon bac. Donc, seul, au Québec, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'il y avait un souper bénéfice à la Reine Élisabeth et que je me suis taché donc un billet pour aller voir mes amis que je considère de Canard Illimité, parce que je connaissais la cause. Je me suis rendu au souper bénéfice. Peu après, je leur ai demandé s'il y avait de l'aide, besoin d'aide au comité organisateur pour le prochain. Et j'ai développé un réflexe d'aider Canard, comme beaucoup de bénévoles, à faire des levées de fonds, des soupers, des rassemblements pour mousser la cause. Ensuite, on m'a demandé si je ferais partie du conseil d'administration, Puis si jamais les gens écoutent, puis les gens vous demandent de faire partie d'un conseil d'administration, puis vous dit il y a seulement 3 rencontres par année, il n'y en aurait pas plus. C'est des mensonges. Alors, il y a quelqu'un qui m'a convaincu d'être membre du conseil que j'ai beaucoup aimé depuis 10 ans, presque maintenant, Conseil national. J'ai chapeauté le comité de conservation au Board national, qui est un énorme comité, pour ensuite devenir vice-président, pour ensuite être nommé président. Et je dois dire que le premier président du Québec, le premier président bilingue. Donc, mon cheminement était tout relié à ça. J'ajouterais, parce que si ma femme écoute, c'est sûr qu'il faut que je le dise. Lors du souper, j'ai rencontré ma femme. Lors du souper, j'ai rencontré son cousin, qui est devenu un de mes meilleurs amis au Québec. De ça est venu beaucoup de choses familiales. Alors, je te décris mon cheminement en une minute.
Je pense que tu as bien fait ce matin-là de demander à ton père qu'est-ce qu'il y avait dans cette tasse.
C'est le début.
Ça a valu la peine.
C'est de sa faute.
Parce qu'il y avait une passion du territoire aussi dans tout ça. C'est un dénominateur commun de bien des gens chez Canard, là.
C'est certain. Quand on voit, tu sais, je me suis joint à Canard il y a 3 ans environ. Et quand je parle à nos bénévoles, nos donateurs, ce sont des gens qui aiment profondément notre territoire, notre chez-nous, qui veulent le protéger pour eux, mais aussi pour les générations à venir. Et ça, c'est tellement important parce que je crois profondément que ça fait la différence entre des bénévoles fortement engagés et d'autres qui vont être là de passage. Puis chez Canard, on voit que nos donateurs, c'est chez nous, c'est ici, c'est leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants qui vont bénéficier du territoire. Et ça donne envie de protéger ce qu'on a de beau et de s'y investir. Ça fait toute la différence dans mon travail, en fait.
À travers tout ça, on protège un patrimoine collectif là, pour les générations futures. Ou...
Ah oui. Puis quand Marie-Ève dit ça, ça m'évoque des idées de souper bénéfice où on peut avoir 3, des fois 4 générations qui sont là à lever la main pour aider la cause. C'est incroyable.
Parce que j'imagine que les donateurs, les gens aussi, les bénévoles, eux aussi ont leur expérience personnelle qui les ont amenés à s'impliquer dans une organisation comme celle-là.
Absolument, comme Roger qui a son histoire qui l'a amené à Canard, qu'on soit dans des salons, dans des rencontres, dans des soupers ou simplement quand je prends le temps d'appeler des anciens donateurs et bénévoles qui se réengagent avec nous, ce que je réalise, c'est que chacun a son histoire personnelle, son lien. Parfois, c'est papa qui était bénévole, qui était au souper, qui a amené la plus jeune génération. Puis là, ces gens-là sont devenus adultes. Ils ont des enfants. Puis ils ont envie, eux aussi, de montrer à leurs enfants que c'est important de protéger ce qu'on a et de s'impliquer. D'autres fois, ce sont des gens qui ont vécu des moments incroyables en nature, qui ont vécu une chasse incroyable et qui se disent, « Bien là, si je veux que ça continue, je dois protéger l'environnement. » Puis d'autres fois, ce sont des jeunes qui vont voir qu'il faut agir pour protéger la nature. Donc, il y a des motivations différentes, personnelles, mais qui finalement nous rassemblent tous autour du territoire, autour d'un amour profond pour protéger ce qu'on a de précieux ici au Québec. Nos milieux humides, nos marais, nos forêts même, à la limite, ce qu'on fait bénéficie à tout le monde.
Puis j'imagine qu'à travers ça, il y a des donateurs, il y a des gens, des bénévoles qui ont peut-être eu une certaine nostalgie des choses, des lieux qui ont vu se transformer avec le temps, puis pas toujours de la bonne façon, puis qui veulent y redonner vie aussi, puis que ça joue sur leur donation, que ce soit de façon monétaire ou de leur temps, là.
Absolument. Les gens vont donner du temps, de l'argent, du savoir, leur connexion. Puis ça, c'est important parce qu'en fait, quand on a ce lien fort avec le territoire, quand on est capable de donner à la hauteur de nos moyens puis de nos capacités, c'est un geste qui est tellement puissant et porteur qu'il laisse une marque. Des fois, je dis que moi, mon travail, c'est de faire le lien entre notre cause et les ambitions philanthropiques de nos donateurs, peu importe ce qu'ils peuvent donner, que ce soit comme Roger, que ce soit du bénévolat, que ce soit leur crédibilité à nos bénévoles et nos donateurs. Parce que quand Roger appelle quelqu'un pour lui dire « Hey, je vais te présenter Marie-Ève, elle a quelque chose » dont elle veut te parler, c'est bien plus porteur que si moi, je prends le téléphone pour le faire. Puis, je pense même à toi, Fabien, qui est là aujourd'hui avec nous. Tu nous aides dans notre mission, puis je veux te dire merci.
Ah ben,
parce que c'est important pour nous.
Non, mais c'est comme on a parlé, tu sais, je pense qu'il y a des, il y a une richesse collective qu'on a, tu sais, puis c'est notre responsabilité de protéger notre air, notre eau. On veut léguer quelque chose de beau. On le fait avec différents moyens, de différentes façons. J'imagine que les premiers bénévoles chez Canard Illimité, maintenant on parle de donateurs puis tout ça, mais au départ, c'était des gens qui donnaient, qui avaient du temps davantage à donner, puis une implication, j'imagine, émotive, puis des gens qui comptaient pas leurs heures.
Ah oui, mais le tout début, imagine le début de Canard Illimité qui va bientôt approcher 100 ans. C'est les années 30. On parle d'une crise économique, on parle d'une sécheresse. Une sécheresse incroyable. Et des bénévoles qui ont... C'est là la naissance. Qui ont dit, il y a un fichu de problème, on ne voit plus la sauvagine qu'on voyait avant, allons voir quel est le problème. Et c'était le début de Canard Illimité. C'est là où l'habitat, c'est encore aujourd'hui, ouais, l'habitat est l'élément clé.
Puis au départ, les bénévoles, qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement là, dans le travail pour quand ils ont voulu monter Canard Illimité Canada?
Les bénévoles, depuis les tout débuts, se sont chargés de, en premier temps, la conservation sans dollars, sans investissement financier, c'est très difficile. C'était des levées de fonds. Des levées de fonds qui allaient servir à la science, à l'ingénierie, à la biologie, pour pousser l'enveloppe sur qu'est-ce qui fait qu'on va ramener les populations. Qu'est-ce qui va faire qu'on va les protéger dans le futur? Donc, et aujourd'hui encore, c'est nos meilleurs vendeurs. Les bénévoles sont, je le dis tout le temps, de notre conseil d'administration. On est les meilleurs vendeurs des milieux humides au Canada.
Parce que j'imagine qu'il fallait aussi convaincre des gens au départ, de dire que ces terrains-là, ces terres qu'on a perdues au profit des fois, que ce soit de l'agriculture ou d'un urbanisme, osons dire, mal fait, il fallait peut-être retrouver ces terrains-là ou du moins protéger ce qu'on avait encore avec nous, là.
Absolument. À un moment donné, les messages clés étaient qu'on détruisait de milieux humides l'équivalent de 10 terrains de football par jour dans les pires années de développement au Canada. Alors, imagine si ça continue, où on va se rendre.
Ouais.
Alors, l'alarme a été sonnée par les bénévoles. La structure de bénévoles existe au conseil d'administration. On est tous bénévoles, les membres du conseil d'administration, et les décisions stratégiques proviennent de ces efforts-là, de ces bénévoles-là. Encore.
J'imagine qu'avec les années, et l'engagement a changé aussi. Il y a plusieurs formes d'engagement quand on est chez Canard Illimité Canada.
Il y a différentes formes, comme Roger en parle. On a nos membres du conseil d'administration, on a nos bénévoles qui, encore aujourd'hui, vont nous aider avec des collègues de fonds. Et là, les gens qui suivent Canard depuis longtemps vont penser automatiquement au souper de canard. Et ça s'est calmé un petit peu ici chez nous au Québec, mais dans d'autres coins du pays, c'est encore très fort. Mais il y a d'autres opportunités de s'impliquer. Par exemple, il y a des gens qui organisent Canard en cavale pour nous aider à faire connaître aux plus jeunes l'importance des milieux humides. Mais au-delà de la collecte de fonds, il y a des gens qui nous aident sur le terrain. On a une belle équipe de mobilisation qui amène les gens à reconnaître les milieux humides, l'importance des milieux humides qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'être restaurés. Et ça, c'est précieux parce qu'on fait le lien entre une passion pour l'environnement, pour la faune, puis même pour les humains. Et on partage la connaissance. Donc ça, c'est une autre façon d'aider. Puis parfois, bien, on a des bénévoles qui nous aident au niveau de l'éducation, vulgariser, créer du contenu, partager avec des jeunes ou encore faire de la photo. Donc, il y a plusieurs moyens de s'impliquer comme bénévole aujourd'hui. Puis je pense que ce qui va faire qu'on va réussir à continuer dans le temps puis à bâtir quelque chose de solide, c'est de continuer de garder un lien ou même de créer un lien encore plus fort avec le territoire. Parce que j'ai l'impression que naturellement, c'est pas tout le monde qui va vers le territoire, qui réalise ce qui se passe avec nos milieux humides, avec la nature.
Puis j'imagine que ces territoires-là qui maintenant sont protégés ou ces habitats dans lesquels il y a de la vie, bien, tout à coup, ça peut devenir même un attrait, alors que peut-être que pendant un temps, on disait « Ah, dans ce coin-là, il n'y aura pas de développement ou on va encore protéger un territoire. » Là, on est en train de dire « Un territoire protégé, c'est peut-être un attrait aussi pour des gens qui vont s'installer autour ou qui vont en profiter au quotidien. »
Ah. Fabien, j'ai filmé le 85e anniversaire dans l'Ouest canadien. On a pris l'équipe, on est allé dans un développement urbain. Il y avait un segment du développement urbain qui avait été préservé en marais, en milieu humide, avec des pancartes et des affichages explicatifs. En filmant, Fabien, il y a une famille, père, mère, deux enfants, qui marchaient à côté. J'ai arrêté, j'étais allé leur parler. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous connaissez de Canard Limité? Canard Limité n'est pas connu par tout le monde. Mmh. Je dis, mais saviez-vous que c'est Canard qui a restauré, conservé le milieu humide? Ce que la mère m'a dit, c'est que c'est comme ça qu'on a appris à enseigner à nos enfants la conservation. C'est dans notre petit milieu urbain, avoir les nids, avoir les pancartes et à se faire expliquer la nature, nos enfants le comprennent. Merci, M. Deschambault, pour ce que vous faites. Venant d'une madame dans un petit paradis urbain qui ne connaissait pas Canard Limité.
Ouais.
C'est, tu sais, depuis que je suis président, Fabien, j'ai souvent utilisé le mot avec mon conseil de relevance, pertinence. Ouais. Les gens vont protéger à tout prix s'ils et elles sentent que ce qu'ils font est pertinent à leur père, à leur société. À leurs enfants, oui. À leurs petits-enfants, comme vous dites. Je pense que ça fait un peu ce que Marie-Ève dit, d'exposer des gens, et ce que tu dis, d'exposer des gens à cette ressource-là pour qu'ils comprennent la pertinence. Mmh.
Dans des projets comme ça, Canard était là, mais avec son paquet de bénévoles aussi qui continuent, tu sais, puis des gens qui deviennent des observateurs sur le terrain, fait qu'il y a un partage de la connaissance.
Totalement. Puisque ce dont tu parles, Roger, dans la dernière année, on a eu un projet similaire ici, chez nous, au Québec. Et c'est vraiment bien parce qu'on a pu, et c'est nouveau quand même pour nous de faire ça comme ça, mais avec le soutien d'une entreprise qui nous a permis de réaliser un projet urbain, on a eu la chance d'amener des bénévoles de la communauté, de l'entreprise, dans ce milieu humide qui a été revitalisé, où on commence à voir la vie revenir. Mmh. Et ça crée un engouement assez pertinent, comme tu le mentionnes, Roger. Et ça fait tellement un bel impact parce qu'on protège ce qu'on aime. Et d'amener la nature à quelque part dans la ville, c'est important aussi parce qu'on a besoin des milieux humides, des milieux éponges. Les bassins de rétention peuvent être des vraies éponges dans les villes, mais aussi amener la vie, la biodiversité par des corridors. Et donc, quand les gens s'impliquent puis qu'ils comprennent l'importance de tout ça, c'est transformateur.
J'imagine, c'est ça. T'as utilisé le terme « swamp » en début d'entrevue, mais fut un temps, des fois, où on voyait ces terrains-là comme un endroit où...
Nuisible
un peu, fait un beau fossé au milieu de tout ça, puis ça va être sec, on va pouvoir bâtir.
Saviez-vous qu'au Québec, le gouvernement payait les citoyens pour drainer les milieux humides? On est rendu loin là, dans notre réflexion.
Oui, il y a eu une évolution qui s'est faite, une collaboration. Puis maintenant, absolument. Je pense que l'État est de plus en plus un partenaire.
Absolument. Le meilleur des... Aujourd'hui, on est très ailleurs, d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'engagement des bénévoles chez Canard Illimité?
Ah, écoute, Fabien, l'engagement des bénévoles, je l'ai dit d'office, c'est nos meilleurs vendeurs, c'est des gens passionnés. Puis si nos bénévoles qui nous aident à faire connaître la cause, à faire miroiter la cause, à faire rayonner la cause, avec autant de passion qu'ils ont fait depuis près de 100 ans maintenant, et on continue à le faire, c'est l'ADN de Canard et le bénévolat, le travail d'équipe avec les gens comme Marie-Ève et les biologistes que vous avez eus sur d'autres podcast avec vous, parce que ces gens-là, ce travail d'équipe-là, c'est notre ADN. Les bénévoles, c'est à cause d'eux, puis je le dis tout haut, tout fort, à chaque opportunité, que Canard Illimité existe. Point. Ils doivent continuer à nous amener ailleurs, à nous amener dans des places pour nous faire connaître.
Puis j'imagine que les fonds qui sont qui vont parfois dans des métiers spécialisés en biologie, en cartographie, des choses comme ça. À un moment donné, à travers tout ça, il y a un besoin de bras, tu sais, pour mener des projets puis être capable de. J'imagine que les projets soient de plus grande ampleur, là.
C'est ce qu'on fait avec le projet Mobilisation Canard, notamment. C'est qu'on amène des gens de plus sur le terrain pour reconnaître les besoins du territoire, pour ramener à l'équipe et être capable d'en faire de plus en plus. Puis, je sais pas, Roger, si tu te doutais que j'allais dire que c'est grâce à Roger, notamment, qu'on connaît de si beaux succès puis de si belles réussites au Québec. Roger, depuis que je suis arrivée,
t'es déjà, t'sais,
ouvre des portes.
Loin de moi, là. C'est...
Il est humble. Mais Roger ouvre des portes. Il me présente des anciens bénévoles, des gens à qui Canard n'avait pas parlé depuis un temps. Puis on peut rebâtir des ponts. Et ça, c'est merveilleux. Je crois que le futur de Canard, c'est de rebâtir ces liens-là avec des gens peut-être à qui on a moins parlé dernièrement, de bâtir une nouvelle équipe, des nouveaux bénévoles, des nouveaux passionnés. Puis le bénévolat peut prendre plein de formes, plein de façons. Et sans bénévoles, je pense qu'on ne peut pas exister, mais avec nos bénévoles, je crois que Canard va avoir un autre beau 50 ans avant de nous. Puis merci encore, Roger, pour tout ce que tu as fait.
Bien, merci, Marianne, parce que tu... Tu sais, on disait tantôt, Fabien, avant de rentrer dans la salle, on parlait avec d'autres gens de Canard qui sont des employés de Canard. Ils ont utilisé un mot, « fun ».
Ouais.
C'est le fun de travailler avec nos bénévoles. C'est le fun que quand les bénévoles s'assemblent pour travailler sur la cause. Alors, merci Marie-Ève, pour, qui est une grande croyante d'injecter le fun dans le travail avec les bénévoles. Fait que si on continue à leur offrir ça, on a un autre plus que 50 ans.
Puis, est-ce qu'au Québec, vous l'avez vu, ce changement chez les donateurs? Est-ce que les donateurs, en plus de s'impliquer de façon monétaire, sont de plus en plus aussi dans donner du temps?
Mais les gens veulent, en fait. Puis, je pense que c'est à nous de créer les opportunités. On a... Tu sais, des fois, on entend au Québec, « Ah, les gens sont moins généreux au Québec qu'ailleurs. » J'ai travaillé en philanthropie de bout à l'autre du pays. Je peux vous dire... Aujourd'hui, Marie-Ève, qui travaille chez Canard illimité au Québec, ne peut pas dire qu'au Québec, on est moins généreux qu'ailleurs. Je peux dire qu'au Québec, si boulot, les gens ont le cœur sur la main, les gens veulent donner de leur argent, de leur temps, mais comme Roger l'a dit, il faut que ce soit pertinent, il faut qu'il y ait un lien. Alors, il faut toujours revenir au lien de cœur. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi ton talent? Qu'est-ce que tu peux faire? Et ça change tout. Donc, je pense que notre beau défi à nous dans les années à venir, ça va être de trouver des moyens d'impliquer les gens de façon pertinente, adéquate, de créer des passionnés de la nature, de rendre pour les jeunes dans les écoles la nature, les milieux humides et les bienfaits que les milieux humides nous amènent accessibles. Et on ne peut pas faire ça en engageant 200 personnes chaque année qui vont être notre armée de porte-parole. Sauf que si on a des bénévoles qui se joignent à nous puis qui veulent porter le message, on va pouvoir les protéger, nos milieux humides, parce que ultimement, c'est ce qu'on veut faire.
Parce que demander à des gens de faire un don en argent, on parle de canards, on parle de sauvagines, on parle de milieux humides, d'insectes, d'amphibiens, on parle de la faune, mais on oublie peut-être de nommer les bienfaits pour les gens que tous ces lieux-là peuvent avoir, pas juste dans l'éducation, pas juste dans le savoir, mais dans le bienfait pour quelqu'un de se ramasser dans un milieu sain puis dans un environnement qui est riche.
Oh. Tu me touches avec ça, Fabien, parce que les meilleurs moments que j'ai eus avec mes enfants sont quand ils m'ont accompagné en randonnée ou à la chasse en nature. De vivre le lever de soleil, de vivre la pluie quand on s'en attendait pas, d'observer la faune, d'écouter une forêt devenir vivante. Les relations d'amour qu'on a avec nos pères, d'amis, de famille, en nature, sont bonifiées x10. Les souvenirs d'une vieille tente qui coule versus un 5 étoiles, je peux vous garantir, mes enfants ont vu les deux. Mais il me parle plus du premier.
Ouais, de la tente qui coule.
Et quand je veux, et mes enfants sont maintenant là, ils vivent des épreuves, des jeunes personnes vivent des épreuves, toute personne peut vivre des épreuves difficiles. Ils vont me le dire, « Papa, tu nous as appris que marcher dans la forêt, s'asseoir à côté du petit milieu ou du petit lac, ça m'a ressourcé. Donc, on est rendu à la santé mentale, là, Fabien. D'ailleurs, il y a des médecins qui prescrivent nos projets comme visite à des patients. Fait que là, on est loin. On parle de pertinence en relation, amour et maintenant santé mentale, nonobstant qualité de l'eau, nonobstant. Alors, je pense que nos bénévoles ont beaucoup à faire à nous avoir amenés là. Maintenant, comme Marie-Ève dit, il faut les informer. Ils veulent, nos donateurs veulent savoir pourquoi ils investissent. Il faut maintenant, plus que jamais, dans un monde bruyant et compétitif pour des dons, leur démontrer que ces argents-là valent la peine pour plus que Sauvagen, pour plus que X, Y ou Z. Et c'est notre défi.
Oui, puis c'est l'avenir aussi, j'imagine. C'est ce qui va contribuer au futur d'une organisation à travers les dons, à travers le bénévolat, qui va continuer à avoir des formes différentes dans les années à venir.
Absolument.
Oui, c'est sûr.
On voit en fait que les grands donateurs, les entreprises au Québec saisissent l'importance de protéger les milieux humides, puis comme on dit, pour la faune, pour l'eau et pour tous, et même d'investir pour permettre des accès à des milieux humides qui sont accessibles. On protège ces endroits-là, on a des beaux territoires canards qu'on protège, mais il y a des endroits où on peut créer des accès pour amener la population, pour les faire tomber en amour avec ce qu'on protège, pour qu'eux aussi deviennent nos ambassadeurs. Et ça, c'est fascinant parce que c'est pas facile d'amasser des fonds tout le temps pour la nature, mais de plus en plus, quand on parle du lien avec la santé mentale, des bienfaits pour les humains et de créer ces accès-là, ben on voit les gens se rallier parce qu'on réalise que dans ce monde, comme tu dis, Roger, bruyant, puis pas toujours facile, il faut qu'il y ait une place pour connecter avec la nature. Puis ça fait partie de notre mission, ça fait partie de ce qu'on peut faire, puis je crois que c'est comme ça qu'on va bâtir une base solide. Puis je veux pas oublier de dire que, tu sais, merci à tous ceux qui ont bâti tout ce qui est protégé déjà. Parce que c'est au Québec 50 ans là, de travail acharné, de dons, d'implication, d'investissement.
Et de fun, n'oublie pas le fun.
Et de fun, oui, c'est tellement le fun. Oui.
Hein, on a quand même
puis on va continuer à en avoir du fun, tu sais, puis des histoires pas possibles dans les milieux humides. Mais c'est clair que c'est ça. Il faut qu'on ait du fun ensemble pour protéger le territoire, pour rester sain d'esprit, puis pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est pérenne.
Oui, puis tu sais qu'on a vu des entreprises au fil du temps qui travaillent sur différentes façons d'attirer les employés, de faire une rétention d'employés. On a vu des lieux intérieurs être transformés. Peut-être qu'on va voir des environnements près de chez de grands employeurs, tu sais, de savoir que des gens vont pouvoir, sur leur heure de dîner, après le travail, avoir accès à des lieux qui ont été protégés, plutôt qu'on a tout simplement remblayé ou rendu un peu artificiel. Peut-être qu'une petite pause, puis un moment sur l'heure du lunch, dans un lieu qui est sain, qui déborde de vie, ça peut être très bon aussi pour une entreprise.
Puis vous parlez des entreprises. Mon employeur, grâce à Marie-Ève et son équipe, on a envoyé un paquet d'employés sur le territoire nous aider, Canard, l'équipe, faire un aménagement. Les gens m'en parlent encore. Puis d'ailleurs, Marie-Ève, il faut que je te parle parce que un événement par année, ça a l'air que c'est pas assez.
Ben c'est bon, ça.
Ouais. Ça veut dire que quand on goûte en l'engagement, on goûte et au fun. On veut le poursuivre, puis on veut développer un organisme comme celui-là, ouais. Puis des lieux qui vont être utiles et surtout bons pour toute la population et la faune, entre autres.
Absolument. Puis je t'ai rien dit avant qu'on se parle, mais on travaille en ce moment avec une entreprise, et je dirais pas où, sinon je vais vendre le punch, mais même deux, où justement, ils veulent protéger des endroits près de leur site de travail.
Comme tu dis, Fabien.
Parce que c'est pertinent parce que ça montre l'impact. Les employés peuvent le voir, peuvent y aller. Donc oui, je pense que c'est aussi le futur. Puis de ramener ça près des villes, tu sais, la nature, c'est pas obligé d'être loin. Il y a des moyens d'avoir des points de nature et des points de santé dans nos villes. Il y a des villes qui veulent le faire, puis il y a des gens chez Canard qui peuvent le faire. En mettant toutes nos forces ensemble, puis en parlant avec les bonnes personnes puis les bons bénévoles pour ouvrir les portes, ben, je pense qu'on va y arriver.
Sûrement une belle invitation à l'engagement.
Totalement.
Ce qu'on retient, c'est que Canard Illimité Canada, c'est pas seulement une organisation. C'est une histoire portée par des personnes qui ont choisi de s'impliquer et de s'engager pour protéger quelque chose qui leur tenait à cœur. Alors aujourd'hui, c'est à toutes ces personnes qu'on dit merci.